je crois que j'ai cette formation de géographe dont je ne me défais pas. Et puis, j'ai toujours eu ce sentiment qui est primitif, comme ça, instinctif, du lien de l'homme avec le milieu.
Vous arrivez à destination.
Version perverse, monstrueuse du discours géographique.
Chicago, ville américaine de 3 millions d'habitants située aux portes de l'Ouest et au bord du lac Michigan.
L'esprit géographique, Arthur Guérin-Turc. Grenoble, terminus, tout le monde descend. Un matin, je me suis réveillé à la gare de Grenoble. Mon Dieu, quel affreux cauchemar, vous allez me dire ? Pas du tout. La mine patibulaire dans la grisaille lyonnaise du mois de novembre, je me suis trompé de quai à la gare de Lapardieu. L'erreur d'une seule lettre, mais erreur fatale. Je suis monté dans le premier train et je me suis endormi aussitôt. Une bonne heure plus tard, alors que j'étais confortablement blotti dans les bras de Morphée, un contrôleur de la SNCF me secoua le bras. « Grenoble, terminus, tout le monde descend !» J'ouvrais lentement les paupières. Magnifique panorama. La lumière rosée de l'aube sublimait le tableau. Au premier plan, les voitures pourries du TER Rhône-Alpes se changeaient en wagons merveilleux de l'Orient Express. Au second plan, les fumées des usines polluantes se transformaient en petits nuages pleins de poésie. Au troisième plan, les sombres massifs alpins devenaient des montagnes sacrées, repères divins où les cimes enneigées déversent leur avalanche de nectar. « Grenoble, terminus, tout le monde descend !» me répéta le contrôleur de la SNCF. La journée commençait bien, je devais être à Valence pour 10 heures. Ou pas le Valence en Espagne, non heureusement, le Valence dans la Drôme. Il fallait faire vite, pas le temps de prendre un gratin dauphinois au passage. L'arrivée sur les coups de 11 heures à la gare de Valence ne me fit pas la même impression que l'éblouissement de Grenoble. Valence, dans le couloir rhodanien, est une ville qui se traverse. C'est tout. On s'y arrête parfois pour faire une course, mais guère plus. Rien à voir avec Grenoble, la porte des Alpes. Oui, chers auditeurs lyonnais, la véritable porte des Alpes, c'est la resplendissante gare de Grenoble et pas le lugubre centre commercial de Saint-Priest dans la banlieue de Lyon. Grenoble, c'est le terminus de toute aventure humaine. Au bout de chaque rue, une montagne, écrivait Stendhal, l'enfant du pays. Oui, Grenoble, c'est la ville des impasses, car la montagne encercle, structure, oriente la ville. Au nord, la pieuse et enivrante Chartreuse. À l'ouest, l'imposant rempart du Vercors, à l'est, l'harmonieuse majesté de Belledonne. Grenoble, ville des impasses, oui, mais des impasses coupe-gorge. Une délinquance 63 plus élevée que dans les autres grandes villes françaises a fait dire au syndicat policier Alliance que Grenoble était le Chicago français. Qu'importe cette bavure sur le blason, l'Isère continue de couler sous les ponts. Les Grenoblois sont des hommes sans peur et sans reproche, comme le chevalier Bayard, originaire du Dauphiné. Sur le plateau du grand Monopoly de la France, Grenoble, c'est la case prison. Terminus, tout le monde descend. Ce n'est pas un hasard si le fort de la Bastille domine la ville du haut de son éperon rocheux. Accessible en téléphérique, le fort est un cul-de-sac. Les fameuses bulles vous emmèneront direct dans une voie sans issue de sortie. Souvenez-vous des règles du Monopoly. Pourquoi va-t-on en prison ? Parce que le joueur a fait trois doubles d'affilée, c'est-à-dire qu'il va trop vite pour les autres. C'est bien là tout le problème de Grenoble. La ville a toujours un coup d'avance sur les autres. La Bastille, c'est le terminus des délinquants, mais aussi le point de départ des révolutionnaires. L'opinion publique pense que le 14 juillet 1789 est la date qui marque le début de la Révolution française. Mais en réalité, elle commence un an plus tôt, le 7 juin 1788. La révolte de la Journée des Tuiles à Grenoble provoquera le 21 juillet la réunion des États généraux du Dauphiné à Vizille. préfiguration de la convocation des États généraux par Louis XVI en 1789. On connaît la suite de l'histoire. Un terminus, ce n'est pas seulement une fin, c'est aussi une origine. Grenoble est en avance sur son temps, car elle est maître des horloges. Le train partira de Grenoble seulement quand Michel, le chef de gare, aura fini de boire son café expresso du matin et de casser les noix achetées sur le marché gourmand. Reconnaissons que Grenoble a toujours une longueur d'avance. Ville de Louis Néel, prix Nobel de physique en 1970. Ville du synchrotron européen. Capitale française des nanotechnologies. Première grande ville de France à élire en 2014 un maire écologiste. Grenoble est dans une autre dimension. Fini le temps des bikers, fini le temps des skaters, bienvenue dans la nouvelle galaxie des trotters. Oui, la trottinette électrique est le moyen de transport qui convient le mieux à la technopole grenobloise. Là-bas, les skateparks sont passés de mode, on ouvre désormais des trottparks. Grenoble, ville de la transition, est en transe et monte le son. Grenoble est le laboratoire industriel, social et politique de la France. Grenoble attire les étudiants qui composent 10% de la population de l'agglomération. On y entend parler toutes les langues qui contribuent à forger l'ADN grenobloise, ce sentiment que l'étranger est perçu comme un facteur de richesse et non pas comme un problème. Les vagues migratoires successives, indispensables à la bonne marche de l'industrie, ont enraciné cette culture d'accueil. Le taux de natifs n'est d'ailleurs que de 30% à Grenoble. C'est le taux le plus bas de France. Que l'on soit français ou étranger, les Grenoblois viennent toujours un peu d'ailleurs. Cela génère une identité positive, une envie de faire, d'étudier, d'entreprendre, de vivre et de construire. L'époque de l'American Dream est révolue, nous entrons dans le temps du Grenoble Dream. Grenoble, c'est la fin et le début de tout parcours. Ville de transition environnementale, mais aussi ville de transition comportementale. De retour de son exil sur l'île d'Elbe, Napoléon remonte sur Paris en passant par les Alpes. Le 7 mars 1815, en arrivant rue de Bonne, il prononce la fameuse phrase « Avant Grenoble, j'étais aventurier, à Grenoble, j'étais prince ». Magnifique métamorphose, Grenoble est la bonne fée qui transforme les citrouilles en carrosses. Grenoble est dans la sublimation, le changement d'état du solide au gazeux, c'est-à-dire du banal au sacré. Stendhal nomme ce changement la cristallisation. À ce propos, je vais vous faire une révélation sur Henri Bayle, alias Stendhal, l'auteur du roman célèbre Le Rouge et le Noir. Chers auditeurs, élèves de première, ouvrez bien grand vos oreilles, cette œuvre est au programme du bac français. Une polémique historique persiste sur la signification du titre. La plus courante est que le rouge symbolise l'armée et le noir le clergé. Ainsi, durant tout le roman, Julien Sorel hésite entre d'une part l'armée et sa passion pour Napoléon, et d'autre part le clergé qui lui a permis d'effectuer ses études et donc son ascension sociale. Je vous propose une autre lecture de ce titre qui paraît toujours aussi énigmatique, sans compter que Stendhal n'a jamais donné d'explication. Le rouge et le noir, c'est une métaphore pour désigner Grenoble, la ville natale de Stendhal. Nous avons dit que Grenoble est une gare de correspondance entre deux espaces, la France à l'ouest et les Alpes à l'est. Grenoble, c'est le point de contact entre deux univers, deux couleurs. La France est rouge, non pas communiste, ne me faites pas dire d'anachronisme. Le livre sort en 1830. La France est rouge de sang. Ses rivières sanguinolentes charrient les cadavres des enfants du pays tombés pendant la Révolution française, les massacres de la Grande Peur de 1789, les guillotinés de la Terreur, la boucherie des guerres napoléoniennes. Au début du 19e siècle, la France est un cimetière. Grenoble, au pied des Alpes noires, se tient à l'écart. Dans le même temps, les romantiques redécouvrent la montagne, cette part obscure de l'humanité, ce chaos originel. La nuit de tous les temps. La ténébreuse montagne attire les poètes torturés, Lamartine en tête de cortège. Grenoble, c'est la synapse entre la France et les Alpes, entre la barbarie humaine et le rêve des éthers. Grenoble, c'est une ville en tension entre l'ici-bas et l'au-delà, entre la réalité des hommes et la fiction des idéaux. Grenoble, c'est la ville qui allie le rouge et le noir. Cette lecture géographique du titre est tout à fait plausible, d'autant plus que Stendhal a repris pour la trame de son roman le fait divers de l'affaire Berthet, qui a lieu en 1827 près de Grenoble. Je vous laisse relire, chers auditeurs préparatifs du bac français, cette œuvre, en ayant en tête que c'est Stendhal qui possède la clé de la porte des Alpes. Quelques mois après m'être trompé de quai à Pardieu, je suis retourné par le train à Grenoble rendre visite à un ami. Vous voyez le passager relou qui fait un scandale parce qu'il n'est pas assis à côté du hublot dans l'avion ou de la vitre dans le train ? Oui, ce passager exaspérant, c'est moi. Si vous en croisez un, soyez indulgent, c'est seulement un géographe dans l'âme qui a besoin de sa dose quotidienne de paysages à découvrir. En s'asseyant à côté de la vitre, on voit défiler les champs, les collines et les forêts. La vitre du train, c'est l'écran de télévision du géographe. Pour peu qu'il ait son paquet de pop-corn, le train se transforme en cinéma. Le TER Lyon-Grenoble, c'est la salle obscure qui diffuse le film de la Surrection des Alpes. Un classique de la géographie, un film culte. On commence dans la joie et la bonne humeur par les paysages rassurants de la grande banlieue de la plaine lyonnaise. Le film débute tranquillement. Premier élément déclencheur, on rentre dans le département de l'Isère. Et hop, on monte doucement dans les terres froides, on longe le plateau de Crémieux, puis quelques péripéties plus loin, on passe Saint-André-le-Gaz, et coup de théâtre, virage sec sur la droite, on s'enfonce dans l'étroite vallée de la Bourbre. On retient notre souffle dans la descente vers la plaine du Lié, haut le cœur dans le synclinal forestier du Blanchet, puis moment de flottement, les spectateurs se regardent l'œil hagard, on est dans la plaine céréalière de la Bièvre. À peine a-t-on repris ses esprits, que retournement de situation, le train tournicote, on passe le seuil de rive, on rentre dans du sérieux, on ne plaisante plus. L'effroi se lit sur le visage des passagers. On est dans la Cluse de l'Isère. Chartreuse à gauche, Vercors à droite, puis le train avançant, les lueurs rassurantes de la ville apparaissent. L'aventure s'arrête ici, plus de peur que de mal, et on entend une voix rauque s'exclamer « Grenoble terminus, tout le monde descend !» Grenoble, c'est toujours le happy end d'un film français.